Katia Beach.
Le président américain Donald Trump a justifié les droits de douane de 39% imposés à la Suisse par un déficit de 40 milliards de la balance commerciale. Des explications qui corroborent celles avancées hier par la présidente de la Confédération. Karine Keller-Sutter avait ajouté que le Conseil fédéral rejetait cette position absurde et souhaitait relancer les négociations. Les nouvelles taxes douanières américaines devraient entrer en vigueur jeudi prochain. Donald Trump a déclaré avoir ordonné le positionnement de deux sous-marins nucléaires américains en réponse à des propos provocateurs de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Vladimir Poutine avait de son côté annoncé que la Russie avait lancé la production en série d'un nouveau missile hypersonique de dernière génération, un missile qui peut porter une charge nucléaire. Plus d'un million de jeunes catholiques du monde entier sont attendus aujourd'hui à Rome pour participer à une veillée de prière géante avec Léon XIV qui doit arriver en hélicoptère avant un bain de foule dans sa papa mobile. Les pèlerins passeront ensuite la nuit sur une esplanade d'une centaine d'hectares où ont été installés des écrans géants jusqu'à la grande messe de clôture présidée par le pape américain demain matin. Il s'agit du point d'orgue du jubilé année sainte de l'Église catholique célébrée tous les 25 ans. La précédente veillée en l'an 2000 avait attiré près de 2 millions de jeunes. Au Chili, les équipes de secours ont intensifié leurs recherches pour retrouver les 5 personnes piégées après un effondrement dans la plus grande mine souterraine du monde. L'accident s'est produit jeudi après-midi dans la mine de cuivre d'El Tiende. Les mineurs bloqués travaillaient à l'extension de la mine à quelques 1200 mètres de profondeur. Plus d'une centaine de secouristes participent à l'opération de sauvetage. Une colonne de cendres et de fumée jusqu'à 12 km d'altitude, c'est la conséquence d'une éruption d'un volcan indonésien cette nuit. Aucun dégât ni victime n'est répertorié pour le moment. Le volcan Levotobi Lakilaki sur l'île touristique de Flores était déjà entré en éruption le mois dernier, entraînant l'annulation de dizaines de vols depuis l'aéroport de Bali. En natation, pas de médaille pour Roman Mitiukov sur le 200 mètres d'eau au championnat du monde de Singapour. Le jeune voit a terminé 7e de la finale, remportée par le Hongrois Hubert Koss. Et cet après-midi, le Tessinois Noé Ponte, meilleur temps des demi-finales, va tenter de décrocher une médaille sur le 100 mètres papillon. En tennis, c'est terminé pour Belinda Bencic au tournoi de Montréal. La Saint-Galloise a été battue 6-7, 6-2, 6-3 cette nuit au troisième tour par la Tchèque Karolina Muchova. Le Festival international du film alpin des Diablerets débute aujourd'hui dans la station vaudoise. Près de 70 films d'une douzaine de pays sont à l'affiche pour cette 56e édition. À cette occasion, le prix du mérite alpin sera remis à la guide valaisanne Josette Balloton qui a gravi les 14 8000 mètres de la planète. La météo, le temps sera nuageux avec des averses en début de journée et dans le courant de cette matinée, nous passerons à un temps assez ensoleillé sur le plateau et il fera de 14 à 23 degrés aujourd'hui.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
De l'élégance lumineuse de Mendelssohn à la puissance expressive de Brahms, ce samedi, au Festival de Verbier, l'orchestre de chambre de Verbier, dirigé par Theodor Currentis, interprète la 4e symphonie, l'italienne, de Mendelssohn, et le concerto pour violon de Brahms avec le violoniste belge Marc Bouchkoff. Rejoignez-nous ce samedi, dès 19h30, dans l'été des festivals, sur RTS Espace 2 et RTS Play.
À la limite, David Christoffel.
Bonjour, vous écoutez À la limite, l'émission qui explore les lisières du grand répertoire. Quand on parle des catégories de compositeurs un peu plus facilement oubliées que les autres, il en est une qui se pose là, ce sont les compositrices. Et quand un beau souci d'égalité entre hommes et femmes nous amène à porter notre attention sur les compositrices, toute la documentation disponible semble focaliser sur une seule sous-catégorie de compositrices, les premières femmes A. Par exemple, à l'époque où Marie Curie est la première femme à recevoir le prix Nobel de physique en 1903 et Selma Lagerlöf la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature en 1909, Lili Boulanger est la première femme à remporter le premier Grand Prix de Rome de composition en 1913.
Thank you.
Sarah Nemtanou au violon, Anne de Fornel au piano, dans la pièce pour violon et piano de Lily Boulanger. Il est pratiquement impossible d'entendre parler de Lily Boulanger sans entendre dire qu'elle est la première femme à remporter le premier Grand Prix de Rome de composition en 1913, alors même que le Prix de Rome a été fondé par Louis XIV et a dû donc attendre le XXe siècle pour récompenser l'œuvre d'une compositrice. Alors les esprits curieux ne s'en tiendront pas là et pourront chercher qui a bien pu être la première femme à remporter le second Grand Prix de Rome de composition et découvrir Hélène Fleury-Roy, pour qui en 1904 il était justement, je cite, « brave et amusant de concourir pour un objet qui n'a jusqu'ici été réservé qu'aux hommes ». L'amusement avait en réalité un double fond, le jeu voulait en valoir la chandelle, la compositrice misant sur ses efforts pour que des gains ruissellent sur les lauréates suivantes, la deuxième femme A, la troisième femme A. Elle disait « cette initiative doit forcément produire de bons résultats, mais je n'ai pas la prétention d'en profiter moi-même. D'autres viendront qui récolteront ce que j'aurais semé et cela suffit à me contenter. » La première femme à remporter le second Grand Prix de composition est Nadia Boulanger, la grande sœur de Lily. En 1908, les suivantes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale seront Marguerite Canal en 1920, Jeanne Leleu en 1923, Elsa Barren en 1929 et Yvonne Desportes en 1932.
Vous souvient-il du bon vivant, Rougeau comme jambon en foire, qui s'ébondissait au couvent du petit Saint-André sur Loire? Il ne lisait aucun grimoire, mais noyait en franc des chaussées, au fond du ponçon ABC, au fond du ponçon ABC. Là, le deuil est au réfectoire. Frère Panu, est trépassé. Le bon diable au fait d'avant, comme il jouait de la mâchoire, il s'en allait flaire en levant du côté de la rôtissoire. S'il buvait sec, on peut le croire, même un jour il fut ramassé, chantant la messe en un fossé, chantant la messe en un fossé. Gare, le jeûne en purgatoire, frère Panus, est trépassé. Pour les fillettes sous l'auvent, leur en a-t-il la bonne histoire? Toujours il allait de l'avant, sans compter que Dame Victoire avait la clé de l'oratoire. À l'enseigne du pot cassé, il la maintes fois confessé, il la maintes fois confessé. Mais à présent, fermez l'armoire, frère Panus, est trépassé. Que chacun dise à sa mémoire à la cave à boire, frère Panus, est trépassé.
Jean-Christophe Benoît a interprété la ballade du frère Panus, un texte de Gabriel Vicaire, avec une partition de Yvonne Desportes. Yvonne Desportes, qui a beau avoir été honorée par les distinctions romaines, qui fait partie de ces compositrices qu'on ne voit pas quand on ne regarde que les premières femmes à. Dire c'est la première, c'est laisser entendre que ce n'est pas trop tôt et qu'il est vivement souhaité que la deuxième ne tarde pas trop et que la position visée gagne en mixité dans les meilleurs délais. Diffusée donc avec un parfum de bonne résolution, le titre de première femme A fait aussitôt basculer les belles intentions en vœux pieux. Présenté comme un honneur, être la première femme A devient vite un enfermement. Puisque plus la première femme A est médiatisée en tant que première femme A, plus sa médiatisation ne sert à rien d'autre que de l'enfermer dans le rôle de première femme A. D'ailleurs, il peut se passer beaucoup de temps entre la première et la deuxième. Par exemple, Ethel Smith devient à 26 ans la première femme A composer un opéra pour le Metropolitan Opera de New York en 1903, un opéra intitulé La Forêt, et il faudra attendre un peu plus d'un siècle avant que n'arrive la deuxième. Entre-temps, l'œuvre lyrique d'Ethel Smith ne s'est pas arrêtée. Voici un extrait de La Prison qu'elle compose en 1930.
Thank you.
avec Dashaun Burton dans le rôle du prisonnier. C'était un extrait de l'opéra La Prison de Ethel Smith, écrit en 1930. Ethel Smith qui a donc été la première femme à composer un opéra pour le Metropolitan Opera de New York en 1903. Elle a aussi été la seule de tout le XXe siècle, puisque la deuxième femme à l'affiche de l'institution était une compositrice qui nous a récemment quitté, Kaya Sarriao, avec son opéra L'Amour de Loin en 2016. Clémence, le premier tableau du deuxième acte de L'Amour de Loin de Kaya Sarriao, qui n'était donc pas la première mais la deuxième compositrice à faire entendre sa musique au Metropolitan Opera de New York en 2016. Cet esprit de primeur qui focalise l'attention sur les premières femmes a en fait traversé les siècles. Déjà en 1691, le Mercure galant consacrait Élisabeth Jacquet de la Guerre en tant que première musicienne du monde. Depuis les années 2000, l'écrivaine Élisabeth Jacquet, son homonyme, ne peut pas taper son nom sur un moteur de recherche sans tomber sur la compositrice qui devient, par effet Google, la première femme à conquérir la gloire sous le nom d'Élisabeth Jacquet. En repliant la quête à la primauté sur le web, sur la frénésie narcissique contemporaine, Élisabeth Jacquet du XXIe siècle semble chercher à conjurer l'une par l'autre en déployant à la manière d'une vanité la collection des intitulés, disons, primo-normatifs qui circulent sur son homonyme. Élisabeth Jacquet du XXIe siècle a pu relever qu'Élisabeth Jacquet du XVIIIe était autant la première femme à avoir des sonates pour clavecin et violon publiées, que la première compositrice française à avoir écrit des cantates sacrées et à les voir publiées, que la première femme française à avoir composé une tragédie en musique, que première femme à avoir un opéra représenté à l'Académie royale de musique à Paris. Thank you. La voix de Raphaël Kennedy dans le rôle de Procris pour l'air Lieu écarté, extrait de Céphale et Procris, un opéra de 1694 d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Dans la chronologie des premières compositrices, la première des premières est peut-être la première femme à avoir édité de la musique, Magdalena Casulana, en 1568, portée par la dynamique de l'ensemble Musica Secreta, fondée par la soprano Deborah Roberts en 1990, la musicologue Laurie Strass a permis la réédition de ses partitions et dans le même temps, Catherine Deutsch a enquêté sur la vie de cette première compositrice à éditer des partitions en fouillant le contexte éditorial dans lequel cela a été possible. Et elle a trouvé la dédicace de son premier recueil de partitions qui est devenu un modèle du genre dans lequel la compositrice écrit « Je sais bien, illustrissime et excellentissime signora, que mes premières œuvres par leur faiblesse ne pourront avoir l'effet que je souhaiterais, qui serait en plus de témoigner ma dévotion envers votre excellence, de révéler aussi au monde la vaine erreur des hommes qui se croient maîtres des dons de l'intellect au point qu'il leur semble impossible de partager ces derniers avec les femmes. » Parlant de la vaine erreur des hommes, la dédicace de la compositrice Magdalena Casulana s'inscrit dans le vieux débat qu'on a ensuite appelé la querelle des femmes. Depuis le XIVe siècle, des textes se multiplient pour discuter des mérites, des vices et des vertus des femmes, depuis notamment les écrits de Boccace. Et Casulana s'inscrit dans cette tradition de phylogénie plus ou moins ambiguë, en venant souligner que les femmes sont capables de composer de la musique et osent se donner elles-mêmes en exemple d'excellence. Et du point de vue de l'histoire des écrits philogynes, la musicologue Catherine Deutsch replace Casulana à la suite d'une tradition qui peut-être remonte, elle, à un écrit de 1547 où Tullia d'Aragona est la première femme à publier un ouvrage en signant la dédicace de son nom.
Yes, it was your fault.
à se prêter à son tour au jeu des premières femmes. À la musicologue Catherine Deutsch pointe le premier texte d'une femme qui critique la misogynie, c'est La Cité des Dames de Christine Pisan en 1405, auquel réplique Laura Terracina qui dira quelques décennies plus tard « Je voudrais parler, mais la colère m'en empêche car je suis seule à défendre notre sexe ». Voici un troisième et dernier madrigal de Maddalena Casulana, à nouveau interprété par Silvia Piccolo. Nous sommes donc là, chaque orchestre, chaque institution, chaque fonction, chaque genre a sa première femme par cette posture rhétorique qui ne s'attarde sur l'essor des créatrices qu'en passant par les premières. On cite quelquefois Raffaella Aleotti comme la première femme à publier de la musique sacrée avec un recueil de motets à 5, 7, 8 et 10 voix en 1593. Hélène de Montgeroux qui est estampillée comme la première femme à enseigner le piano au Conservatoire de Paris en 1795 pour la classe de piano homme. C'est dans cet esprit que le critique Jérôme Bastianelli a parlé de l'étude numéro 107 pour donner à la main gauche de la rapidité dans un trait continu de la compositrice Hélène de Montgeroux comme d'un plagiat par anticipation de l'étude opus 10 numéro 12 de Chopin. C'était Bruno Robiliard qui interprétait cette étude numéro 107 d'Hélène de Montgeroux, qui par anticipation peut effectivement faire penser à Chopin. Alors au Conservatoire de Paris, chaque classe a sa première femme. Eddy Salquin n'aura jamais connu autant d'écho médiatique qu'en 1952, au moment de remporter le premier prix de la classe de direction d'orchestre du Conservatoire de Paris. À sa suite et jusqu'en 2014, au centenaire de la classe de direction d'orchestre, seules 10 femmes ont été primées, soit 7% de l'ensemble des lauréats. Et parce qu'elle a été la première, Eddy Salquin a fait l'objet de nombreux articles. Par exemple, dans l'Aurore du 5 juin 52, on pouvait lire « Pour la première fois, une jeune fille de 22 ans, mademoiselle Eddy Salquin, vient de remporter à l'unanimité au Conservatoire National de Musique le premier prix de direction d'orchestre devant 13 candidats. » Le Franc-Tireur du 7-8 juin 1952 frôle l'ironie en écrivant « Mademoiselle Eddy Salquin, 22 ans, originaire de Suisse, a triomphé de tous ses concurrents masculins, une femme qui saura mener à la baguette ses futurs musiciens. » Fin de citation. La curiosité de voir une femme diriger un orchestre l'emporte systématiquement sur l'intérêt pour ses prestations artistiques. La chef racontait à sa fille qu'un impresario est même allé jusqu'à lui faire remarquer après un concert « Vous êtes trop âgée pour porter du rouge » alors qu'elle avait à peine 30 ans. Mais là où ce traitement de faveur mal placée finit par ronger la qualité du travail, c'est qu'il entraîne des comportements de défense. Et à l'occasion d'un mémoire à l'université de Genève, sa fille, Philomène Graber, s'est fait raconter par Eddy Salquin qu'elle s'efforçait de ne pas trop sourire en dirigeant, de crainte qu'on ne la soupçonne de vouloir dissimuler quelques imperfections professionnelles derrière son sourire. Au point que certains hommes ont fini par reprocher à la chef de ne pas sourire. Car être la première femme à ne protège pas de quelques sorties désobligeantes. Un musicien lui a un jour balancé « Je ne crois pas que vous ayez assez d'expérience sexuelle pour pouvoir diriger l'après-midi d'un faune. » Un autre jour, un violoniste lance à la cantonade assez fort pour qu'elle l'entende « Ah, voilà notre vierge qui s'amène !» Façon bien violente de disqualifier sa position d'autorité. En attendant, tout le mérite de la chef Eddy Salquin est présenté dans la presse sous le régime de l'exception et son activité de compositrice a systématiquement été passée sous silence. L'Allegretto Scherzando 2 est par Eddy Salquin, la première femme à être primée en direction d'orchestre au Conservatoire de Paris en 1952. Eddy Salquin aura eu davantage d'articles de presse que d'engagement. Après son premier prix, on avait même oublié de lui accorder un concert avec l'Orchestre National de Paris auquel, comme le prévoyait le règlement, le ou la lauréate du premier prix du Conservatoire de Paris avait le droit. S'il est donc évident que les lois du succès ne respectent ni les premières femmes à, ni la la moindre parité, elle ne respecte pas non plus les évidences de la compétence ou encore le mérite, si bien que Eddie Salkin n'a jamais véritablement fait carrière malgré ce titre prestigieux. Au début des années 70, elle a tenté de relancer sa carrière en sollicitant la recommandation de son ancienne professeure d'harmonie, Nadia Boulanger. Elle lui écrit le 9 janvier 1972 « Permettez à votre ancien élève du conservatoire de vous demander une grande faveur. Ayant reçu une invitation pour donner un récital de piano à New York, je vais passer une dizaine de jours aux États-Unis à la fin de ce mois de février. C'est la première fois que je me rends aux États-Unis et ce concert sert de prise de contact avec les milieux musicaux américains. » Et malgré toutes les recommandations que Nadia Boulanger n'a pas manqué de lui donner, eh bien sa carrière de direction d'orchestre n'a pas prise et elle a finalement renoncé à la direction d'orchestre au milieu des années 70. Sa fille, Philomène Graber, s'inscrit en faux contre certains articles qui disent que c'est à cause des enfants qu'elle n'a pas pu s'émanciper. Sa mère tenait à préciser qu'elle a abandonné à la suite de l'arrivée de La Nouvelle. Le fait que l'on n'avait pas besoin de deux femmes chefs d'orchestre a été le moteur principal de sa décision. Et sa fille, en effet, ne dit pas qui est La Nouvelle. Il est fort probable qu'il s'agisse de Sylvia Cadouf, qui a été la deuxième chef suisse, non sans avoir été en 1966 la première femme à remporter le concours international de musique Dimitri Mitropoulos. Alors pour lui rendre un peu justice, je vous propose d'écouter une deuxième pièce d'Eddie Salkin. fouiller dans le matrimoine en ne retenant que les premières femmes A nous porte à chercher des catégories parfois très ténues. Par exemple, la première femme à avoir signé un contrat d'enregistrement exclusif avec Deutsche Grammophon, Mirga Grazinietetila, en 2019. La première femme à remporter le Grand Prix Corto de piano, c'est Noura Yadi, en 2019 aussi. La première femme à recevoir la médaille Bar de la ville de Leipzig, c'est Angela Hewitt, en 2020. La première femme à recevoir un Golden Globe de la meilleure musique de film, c'est Hildur Guðnadóttir en 2020 aussi. La première femme à devenir directrice musicale d'un orchestre national français est Deborah Wallmann en 2020 toujours. La première femme à diriger la musique à la Biennale de Venise est Luca Ronchetti en 2021. La première femme à diriger un opéra au festival de Bayreuth est Oksana Linif en 2021. Ou encore la première femme compositrice suisse à se voir dédier un colloque, il s'agit de Caroline Charrière et ce sera en 2023. Un extrait de Feu de Caroline Charrière par l'ensemble Contrechamps, un enregistrement de 2015. Caroline Charrière qui est donc la première compositrice suisse à se voir dédier un colloque en 2023, mais aussi la première compositrice à avoir son fonds accueilli et inventorié par la bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Il y aurait donc en musique comme en science un effet Matilda. Du nom de Matilda Joslyn Gage, qui est une militante féministe américaine américaine dont on retient le nom pour avoir été la première femme à remarquer que des hommes s'attribuent couramment les idées des femmes, ce qui a amené l'historienne des sciences Margaret Rossiter à reprendre son prénom pour thématiser l'effet Matilda, qui donc nous prévient que les réalisations des femmes sont plus systématiquement minimisées que celles des hommes. Mais en parlant d'effet Matilda, Rossiter mobilise la rhétorique désormais consacrée des biais cognitifs. Or, du point de vue de ces biais, eh bien, l'effet Matilda est amplifié par cet effet de primauté qui nous amène à retenir plus d'attention pour les premières que pour les deuxièmes. C'est comme ça que Nina Simone a déclaré toute sa vie que son plus grand regret était de ne pas avoir pu devenir la première pianiste concertiste classique noire d'Amérique, née 50 ans avant elle dans l'Amérique ségrégationniste. Une femme avait déjà réalisé cet exploit, Hazel Harrison. Quand la place de première A est donc prise, il y a une sorte d'effet deuxième Matilda, puisque l'ajout des origines dans l'estampille permet de les multiplier encore. Quand on distingue par exemple Marian Anderson comme la première femme noire à chanter au Metropolitan Opera de New York en 1955, ou quand 4 ans plus tôt, le Los Angeles Times attirait l'attention sur la violoniste Nejiko Suwa en la consacrant comme la première star de la musique japonaise à mettre le pied sur le sol américain depuis la signature du traité de paix. Je vous propose à présent d'écouter une compositrice qui est la première compositrice académicienne à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. C'était Patrick Auriol à l'alto et l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani. Bruno Mantovani qui se trouve aussi avoir un siège à l'Académie des Beaux-Arts, tout comme donc la compositrice de cette pièce Outre-Noir, Edith Cana-de-Chizy, qui est la première femme à occuper un siège à l'Académie des Beaux-Arts depuis 2005. S'il a donc des vertus promotionnelles incontestables, l'intitulé « La première femme à » se systématise quand même avec la forme d'un stigmate. On l'aura abondamment montré au cours de cette émission. Au lieu d'un tremplin, l'étiquette « La première femme à » peut avoir l'effet d'un plafond de verre. On en arriverait à la situation absurde où il faudrait presque chercher de quoi Mel Bonis a été la première femme pour seulement envisager de l'écouter. C'était le pianiste Antonio Oyarzabal qui interprétait le deuxième mouvement d'Esdémone du recueil Femmes de légende de Mel Bonis. Mel Bonis qui a bien été une première femme, mais alors c'est très têtu. Elle a été la première femme élue membre du comité puis secrétaire de l'association SCM. Pour finir, je vous propose d'écouter la première femme à avoir remporté le